Salam alaikum tout le monde. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de musulmans et musulmanes ambitieux qui sont des acteurs positifs de changement afin d'apprendre de leurs expériences et inspirer la prochaine génération de Muslim Makers.
Dans notre communauté musulmane, c'est souvent lié au fait qu'on pense que si tu as la foi ou si tu lis le Coran, tu ne devrais pas avoir de difficultés, que c'est un signe d'ingratitude ou des fois la personne pense que c'est une punition de Dieu.
Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Salem El-Majzoub, résidente en psychiatrie à l'Université McGill de Québec, au Canada. Salem nous raconte son parcours et ce qui l'a poussé à s'orienter vers cette profession. Elle nous parle des idées reçues que les musulmans peuvent avoir sur la psychologie et la psychiatrie, ainsi que de l'intérêt et l'importance de renouer avec cette science.
Mais quand est-ce qu'on sait que c'est devenu trop et qu'en fait, c'est en train de bloquer notre avancement plutôt que nous aider et que là, on a besoin d'aide? C'est quand ça commence à impacter toutes les sphères de notre vie. Quand ça commence à impacter notre capacité de travailler, notre capacité de former des relations avec les autres, que les gens qui sont les plus proches de nous s'inquiètent pour nous.
Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à rejoindre les groupes Instagram et Telegram Muslim Makers. Les liens sont en description. Bonne écoute. Assalamu alaikum wa rahmatullah, salam.
Wa alaikum wa rahmatullah.
Comment vas-tu?
Alhamdulillah, ça va se faire bien.
Tu vis au Canada? Et moi, je suis à Singapour, donc là, on a 13 heures d'écart. Ça, je crois que c'est le maximum que j'ai fait en décalage. J'ai déjà interviewé quelqu'un du Canada. Je pense que tu la connais, c'était Colline Bellefleur.
Oui, je connais Colline. Ouais. Ça fait plaisir, c'est international. C'est
bien. Ouais, international. Déjà, merci d'avoir accepté mon invitation.
Ça fait plaisir. Merci à toi d'avoir pensé à moi.
Pour commencer, Salem, je te propose de nous faire une petite présentation.
Oui, donc mon nom est Salem El-Majzoub, je suis résidente en psychiatrie ici à l'Université McGill au Québec, au Canada. Donc une résidente en psychiatrie pour les gens qui sont pas très familiers, c'est quelqu'un qui a fini médecine, donc on finit notre cours de médecine qui est 4-5 ans, dépendamment. Tu peux choisir de te spécialiser ou de rester général. Et moi, j'ai décidé de me spécialiser en psychiatrie, donc c'est un parcours de minimum 5 ans après ça. Et donc, je suis rendue à ma quatrième année.
Je sais que c'est totalement différent, mais tu peux nous rappeler un peu la différence entre la psychologie et la psychiatrie?
Oui, non, c'est super important. C'est quand même quelque chose qui n'est pas clair pour tous. Mais la psychologie et la psychiatrie, c'est différent, mais c'est complémentaire. Donc, la psychiatrie fait partie du côté médical. Donc, on est formé comme médecin. On est formé dans le diagnostic, dans le traitement médical avec des médicaments et on a une formation en thérapie aussi. Les psychologues, eux, ont une formation plus axée sur la thérapie. Et ça fait partie des sciences humaines et non des sciences médicales, mais c'est complémentaire. Donc souvent, on travaille ensemble. Partout dans le monde, quand même, la santé mentale est difficile à avoir accès. Et donc, les psychiatres, souvent, on est beaucoup plus appelés à faire les diagnostics et la compréhension du cas et à recommander des choses et faire les premiers traitements plutôt que vraiment faire de la thérapie. Et on laisse ça plus aux psychologues qui ont une formation vraiment plus en profondeur là-dedans. Donc, ça dépend des systèmes médicaux de chaque pays, mais souvent, ça travaille en complémentarité.
Comment une personne sait si elle doit voir un psychologue ou un psychiatre? C'est le médecin général?
Oui, c'est le médecin général qui réfère la majorité du temps pour un psychiatre. Souvent, les psychiatres qui vont diagnostiquer, ils vont dire, bon, le traitement pour, par exemple, une dépression légère à modérée, en première ligne, c'est de faire de la psychothérapie et ces psychothérapies-là sont prouvées, X, Y, Z. Puis là, tu peux aller voir un psychologue. Certaines personnes, par eux-mêmes, ils vivent des transitions dans la vie, des difficultés, des stress, ils vont aller voir un psychologue par eux-mêmes. Et des psychologues, des fois, qui vont commencer un traitement, vont voir que les choses bloquent et que la personne a besoin peut-être de plus de support ou d'un côté plus médicamenteux ou d'une compréhension plus globale. Ils vont dire à la personne d'aller voir un psychiatre. Mais souvent, pour voir un psychiatre, il faut passer par un médecin de famille, comme pour voir n'importe quel spécialiste dans le système de santé actuel.
Très bien, c'est très clair. Au moment où on se parle, on est fin 2021. Il y a quelques semaines, tu as participé, je crois même que tu as participé à l'organisation de la Canadian Muslim Mental Health Conference. Est-ce que tu peux nous parler de cette conférence, quels étaient les enjeux?
Oui, donc la Canadian Muslim Mental Health Conference, c'est une conférence qui a été fondée depuis, c'est notre cinquième itération. Moi, j'ai été impliquée dans la quatrième itération et dans celle-ci, j'ai co-dirigé avec ma collègue Dr. Sarah Hanafi. Et donc, la Canadian Muslim Mental Health Conference, c'est vraiment une conférence nationale qui essaye d'amener un peu l'expertise qui vient de notre communauté ou qui adresse des sujets qui sont importants pour notre communauté, avec un but premier qui est de déstigmatiser, de donner les outils aux gens pour pouvoir t'aider ou aider les gens qu'ils aiment. Et en même temps aussi d'aider le networking, d'aider les professionnels à connecter ensemble. Comme les deux dernières itérations ont été virtuelles, c'est toujours plus difficile pour le networking, mais souvent c'est intéressant de savoir, oh, cette personne travaille sur ce sujet de recherche, je vais m'impliquer, ou ces thérapeutes existent. Et donc d'essayer de créer un réseau pour qu'on se sente moins seul et qu'on puisse apprendre l'un de l'autre et créer du mentorat pour les gens qui sont dans ce domaine. Mais d'habitude, il y a une journée qui est plus pour le public général et une journée qui est pour les professionnels de la santé.
Okay.
Et donc cette année, on a parlé plus de choses c'est des sujets quand même forts, là. On n'a pas peur de parler des sujets forts, que ce soit le suicide, comment on adresse le suicide dans l'islam, que ce soit les addictions, donc les gens qui sont les
Addict.
addictions comportementales, oui, donc addicts comme par exemple la pornographie ou la cyberdépendance, ce genre de choses-là. On a parlé de comment déstigmatiser justement la santé mentale. On a parlé de beaucoup de sujets. Puis on a vraiment des gens qui participent de partout dans le monde. On essaye de souligner plus l'expertise au niveau du Canada, mais on a souvent parce que c'est un domaine, surtout la santé mentale chez les musulmans est un domaine quand même on commence à parler d'un peu plus de la psychologie. C'est un domaine émergent dans la communauté musulmane. Et donc, et on a quelques experts qui commencent vraiment à se démarquer. Donc, on les invite et ça aide les gens à vraiment réaliser qu'il y a beaucoup plus qui est en train de se faire. Et l'espoir vraiment, c'est que les gens, tu sais, je pense que la communauté musulmane est pas la seule. Dans beaucoup de communautés minoritaires ou en général, même dans la communauté majoritaire, il y a beaucoup de stigmas autour de la santé mentale. Mais malheureusement, le stigma et le fait d'être minoritaire augmentent les barrières pour aller chercher de l'aide quand on a des problèmes avec notre santé mentale. Et ça, c'est dommage parce que ça nous empêche de vraiment atteindre notre plein potentiel ou de vivre notre plein potentiel que Dieu, autant qu'il nous a donné ses défis, nous a donné des outils pour pouvoir relever ces défis-là. Et donc, ce qu'on espère, c'est que les gens puissent réaliser ça et aller chercher ces outils pour aller mieux, pour qu'ils puissent atteindre le potentiel qui leur est destiné, Inch'Allah. À petits pas, on essaie de faire ça.
Un petit pas. Alors, j'ai tellement de questions et dans ma tête, je suis en train d'essayer de savoir dans quel ordre je vais les poser. C'est assez compliqué à organiser là, il y a tellement de sujets qui m'intéressent. Mais peut-être avant de rentrer dans tous les sujets que je voulais traiter, d'où est-ce que ça t'est venu, toi, l'intérêt pour la psychiatrie? Tu peux nous parler un peu de toi, de ton enfance, de dans quel contexte tu as grandi et qu'est-ce qui t'a amené à t'orienter vers la psychiatrie?
Oui, donc moi je suis née, j'ai grandi ici au Québec, à Montréal plus spécifiquement. Et j'ai toujours été quelqu'un de très extraverti, intéressé dans l'autre, intéressé à aider les autres. Je pense que vraiment jeune, on m'a inculqué de mes deux parents l'importance de faire le bien fils là, de s'impliquer pour la communauté sans demander quelque chose en revanche. Mes deux parents sont des gens très impliqués, mais fait que j'ai toujours été impliquée, c'est ce que j'essaie de dire. J'ai été impliquée, que ce soit dans les droits humains, que ce soit j'enseignais l'arabe et la religion dans une école arabe du samedi. J'ai toujours eu quand même très occupée, mais en essayant que ce soit occupée de façon productive, à faire le bien et à apprendre à connaître qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et en voulant rentrer dans un domaine professionnel, je me suis dit où est-ce que je pourrais avoir le plus d'impact ou qu'est-ce qui rentre plus avec mes forces à moi. Et donc, je me suis dirigée vers la médecine parce que j'aimais étudier, c'est quelque chose que j'aime faire et j'aime aller à la rencontre de l'autre. Et surtout en médecine, c'est dans un système public qu'on a la chance de vivre comme ici au Canada. C'est pas un système où tu sens le client ou quelqu'un doit te payer. Donc, tu sens qu'il y a tellement de barrières à pouvoir aider l'autre, comme par exemple dans d'autres domaines qui sont aussi des domaines d'aide.
Oui.
Parce que j'ai été, par exemple, avec le droit, avec d'autres choses qui rejoignaient un peu mes désirs d'aider les gens. Mais je
La
trouvais
médecine,
que
c'est
la médecine.
direct, quoi. Que ce que tu fasses, ça
Oui,
aide
c'est
déjà.
ça. C'est ça. Et en médecine, j'avais, une fois que je suis rentrée, j'avais pas vraiment une idée que ça allait être en psychiatrie. Je savais juste que je voulais être dans une relation qui permet vraiment d'être proche de la personne, que ce soit la médecine familiale, que ce soit la pédiatrie, des choses où la personne est vraiment centrale et où il y a un suivi et vraiment un désir de connaître l'autre. Et j'ai eu vraiment un coup de foudre pour la psychiatrie, je pense, parce que j'ai été vite en contact avec des gens qui faisaient de la psychiatrie qu'on appelle holistique, très complète, très humaniste, qui intégrait les aspects culturels, les aspects sociaux, qui utilisait la psychiatrie pour faire de la recherche et avoir une evidence-based, avoir des données pour pouvoir après ça l'utiliser pour faire du advocacy et pour changer les choses au niveau gouvernemental et voir vraiment des rôles, des modèles qui étaient très impliqués et qui utilisaient leurs connaissances pour, un, aider les gens, mais pour faire changer les choses. Et j'ai trouvé que la psychiatrie se mariait tellement bien pour ça, de un. Et de deux, que vraiment, en psychiatrie, tu agis avec les gens les plus vulnérables. C'est comme, quand quelqu'un vient demander de l'aide pour des problèmes de santé mentale, c'est vraiment aux plus vulnérables qu'ils sont. Et ils doivent s'ouvrir et raconter leur histoire. C'est pas juste raconter leur douleur ou raconter, tu sais, un problème tel. C'est vraiment large. On essaie de comprendre toute leur vie. Donc, c'est vraiment une relation qu'on voit pas partout. Je me trouve vraiment
Ouais.
privilégiée de pouvoir vraiment essayer de comprendre la personne dans son entièreté. Et vraiment, ça remplissait ce désir de vouloir comprendre l'autre et me rapprocher, aider les gens. Et donc, j'ai suivi la psychiatrie. Cependant, une fois que je suis rentrée, c'est là que j'ai vu, en m'impliquant plus et avec la psychiatrie et en voyant comment ça peut se marier aussi avec le côté islamique et aider les musulmans aussi à aller chercher ça, que j'ai réalisé qu'on avait tellement une grande et large et riche histoire de psychiatrie dans notre propre religion. Mais
C'est pas
étant
mal.
donné que je suis une deuxième génération, que j'ai grandi ici, que j'ai pas tant été exposée à l'histoire, je pense aussi qu'on a été, dans la majorité des pays musulmans, on a été colonisés, donc on a oublié aussi cette partie riche de notre histoire, qu'on n'était pas seulement avancé au niveau de l'astrologie, de la géologie ou de la médecine, on était vraiment avancé dans tous les domaines, incluant la psychiatrie et d'autant plus. Et donc, ça m'a fait encore plus sentir que j'étais vraiment à ma place, que je suivais vraiment un chemin qui est pas contradictoire à notre tradition, bien au contraire, et qui a un grand besoin pour notre communauté et la communauté en
Est-ce que tu
général.
avais des a priori comme quoi ça pourrait potentiellement être
Ben,
contradictoire?
des a priori comme qu'on connaît des stigmates, comme par exemple les gens, parce que avant de faire connaissance, tu entends par exemple que comme les gens qui ont des problèmes de santé mentale, c'est pas pour les gens qui ont de la foi, alors que c'est pas vrai. Je veux dire, on est humain autant que tout le monde et on peut être de par notre génétique, notre tempérament, notre personnalité, les conflits qu'on vit, les traumas qu'on vit, les vulnérabilités qu'on a, on est tous humains, on peut tous être à risque de développer des problèmes de santé mentale. Mais en général, la réaction que tu as quand tu es, je pense, de un, une femme, de deux, tu suis une carrière qui va être longue et tu vas dans un domaine de la psychiatrie qui a beaucoup son stigma, c'est pas souvent célébré dans la
Oui.
communauté que, ah oui, tu vas faire quelque chose d'important. C'est souvent vu comme, oh wow, t'es sûr? Encore maintenant, ça fait des années que je suis dans le domaine. Puis on me demande, t'es sûr? Je me dis, ben, je comprends pas, je
T'es
serais
sûr
pas
dans le
rentrée
sens...
là-dedans que tu aimes ça. Tu es sûr
Oui.
d'être là-dedans, comme si tu peux investir autant de temps pour quelque chose que tu aimes pas. Fait que les gens comprennent pas comment je peux aimer ça ou comment, je pense, on associe souvent qu'il y aura une lourdeur, que ça va affecter la personne, comment tu vas pouvoir dealer à écouter tous ces problèmes des gens sans que ça t'impacte. Comme c'est vu comme quelque chose de très lourd, alors que je trouve que ça me redonne beaucoup plus que ce que je donne.
Ah bon.
Je veux dire, juste de un, quand tu apprends à ça te donne beaucoup d'humilité de voir les gens, de leur parler, de
Oui.
comprendre d'où vient leur problématique, tout ça. mais aussi tu apprends à te connaître beaucoup mieux aussi avec le temps. En étant conscient des réactions que des fois certaines histoires t'amènent ou certains gens t'amènent, pourquoi est-ce que ça me fait réagir de cette façon? Qu'est-ce qui vient de moi? Qu'est-ce qui vient de l'autre personne? C'est vraiment, je pense, pour souvent, parce que dans la formation pour être un bon psychiatre, il faut aussi être plus conscient de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous. Parce que dans cette relation d'aide, on existe avec nos propres défis, nos propres difficultés, notre propre passé qu'il ne faut pas transmettre ou qu'il ne faut pas que ça joue dans la relation. Et donc,
on ne projette pas dans la personne. Ouais.
Exactement, qu'on ne projette pas dans cette relation d'aide. Et donc, je trouve qu'on apprend aussi beaucoup sur soi-même quand on est dans ce domaine-là, que ce soit la psychologie ou la psychiatrie.
Oui. Et vu que c'est un domaine qui, bon, tu l'as dit, dans le passé, les musulmans, c'était un domaine qui était étudié, mais actuellement, ce n'est pas un domaine où on a l'impression qu'on est à la pointe.
Oui.
Donc, comment est-ce que tu fais pour retrouver tes repères avec certains des enseignements que tu peux avoir dans ce que tu apprends, dans ce que tu es censé dire, censé communiquer, et avec les enseignements islamiques? J'imagine qu'il doit y avoir certaines zones assez grises.
En fait, c'est beaucoup moins gris et moins stigmatisé qu'on le pense si on va aux sources et qu'on apprend. Et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de littérature qui est en train de sortir sur le sujet, sur l'étude de l'histoire, que ce soit l'utilisation des médicaments, qui était utilisée aussi au 7e siècle ou jusqu'au 13e siècle pendant l'âge d'or de l'islam. Les hôpitaux psychiatriques, les premiers hôpitaux psychiatriques étaient à Bagdad au 7e siècle. En fait, au 8e siècle, les premières dates, mais même on pense que ça remonterait au 7e siècle. Les premières thérapies, c'était aussi pendant cette époque-là qui ont été développées. Et donc, je pense que pour moi, ce qui a toujours été aidant, c'est d'en apprendre plus sur l'histoire, sur les enseignements, sur vraiment marier ça, que ce soit reconnaître nos émotions, que ce soit même au temps du prophète, il y a des hadiths, il y a des ayats qui sont tellement déstigmatisantes, par exemple. Juste si on donne un exemple de suicide, et ça peut être très, j'aime le dire, ça peut être très triggering, ça peut amener certains sentiments chez nos auditeurs si eux, ils ont eu de la difficulté avec le suicide. Donc, si c'est quelque chose qui rejoint certains de nos auditeurs, dans chacun de vos pays, il y a une ligne d'aide contre le suicide, donc n'hésitez pas à appeler.
Merci de le rappeler.
Mais l'exemple du suicide, c'est que, par exemple, on sait que c'est haram pour nous de se suicider, par exemple. En fait, que notre corps, c'est une amana, que ce n'est pas à nous de décider quand c'est la fin, parce que notre corps et notre vie, c'est un bien, c'est un risque, c'est quelque chose de Dieu, et donc Dieu doit le reprendre et pas nous de nos propres mains. Mais ça devient à un point tel que comment c'est interprété plus tard, c'est que tu ne peux même pas parler ou tu ne peux même pas dire que tu as eu des idées noires ou que tu voudrais ne pas vivre, tellement on pense que c'est tabou et que c'est problématique. Alors que quand tu vas dans le Coran et que tu lis l'histoire de Sidna Maryam, radiallahu anha, et tu vois que quand elle a vécu un défi grandiose qui est de donner naissance à un enfant, qu'elle savait allait amener beaucoup de problématiques sur sa réputation, et elle était sous le palmier, elle a dit: et si seulement j'étais morte et oubliée. Et là, Dieu subhanahu wa ta'ala lui a pas dit non, il faut pas souhaiter la mort.
Astaghfirullah.
Il lui a rappelé les ni'am, il a dit: regarde, des dates pour toi, prends de l'eau, on va parler pour toi. Dis-leur que tu ne parles plus et on va te défendre. Donc, peut-être qu'on offre à quelqu'un qui exprime ses idées qui viennent d'une détresse, c'est le support. C'est le support, c'est le soutien. C'est de réaliser, est-ce que ses besoins de base sont répondus? Comment est-ce qu'on peut l'aider à faire face à ses défis et pas l'isoler et l'empêcher de parler encore plus? Et donc, c'est des petits exemples comme ça, que ce soit comment Rasoul Sallallahu Alayhi wa Sallam, il a passé à travers des périodes de perte, des périodes de tristesse, comment est-ce qu'il a réagi, comment est-ce qu'il en a parlé ouvertement, comment est-ce qu'il a conseillé ses compagnons là-dessus. Donc, on a des exemples innombrables sur comment parler de nos émotions et comment demander de l'aide et comment essayer de prendre soin de soi-même, que je pense souvent est oublié. Et c'est triste parce que c'est dans notre propre histoire, dans notre propre legacy, si on peut dire. Anglicisme.
Votre héritage. On traduit.
Notre héritage, exactement. Merci.
Donc, tu disais qu'il y avait beaucoup de stigmas dans la communauté musulmane par rapport à la psychologie, la psychiatrie. Je pense que c'est plutôt similaire, en fait, ce qu'on retrouve en Amérique du Nord et en Europe. Donc, on peut faire des rapprochements. Quels sont les types de stigmas que toi, tu peux voir dans la communauté? Quelles sont les difficultés qu'il peut y avoir? Pourquoi est-ce que les personnes trouvent ça difficile d'aller voir une psy? Pourquoi c'est aussi bizarre encore?
Je pense que c'est très complexe et notre, je veux dire, on n'aurait pas le temps de tout couvrir dans le peu de temps qu'on a, mais je peux mentionner quelques ressources pour un peu diminuer le stigma et en apprendre plus sur le sujet. Mais puis je dois dire que ce stigma-là n'existe pas juste dans notre communauté, c'est vraiment partagé dans beaucoup de communautés générales et ça se présente différemment. Donc, dans notre communauté musulmane, c'est souvent lié au fait qu'on pense que si tu as la foi ou si tu lis le Coran, tu ne devrais pas avoir de difficultés, que c'est un signe d'ingratitude ou des fois la personne pense que c'est une punition de Dieu si tu as ces difficultés-là. Tout le côté, ben alors il faut travailler sur sa foi et non aller chercher des médicaments. Puis il y a tout le côté aussi qu'il ne faut pas nier que quand on est minoritaire dans une société majoritaire où le psy et le psychiatre ne vont pas nous ressembler, ils ne vont pas nécessairement reconnaître d'où toutes nos difficultés viennent, il y a cette peur que nos difficultés vont être attribuées à notre religion, que ça va augmenter l'idée négative que les gens ont de notre religion, qu'on va nous dire ben, « c'est parce que par exemple, parce que tu n'as pas de relation romantique quand tu es jeune ou parce que tu es opprimé par tes parents ou parce que ci, parce que ça. » Et donc, on a peur on a un peu cette difficulté à vouloir s'ouvrir à des gens et penser qu'on va recevoir une attention plus négative ou que notre religion va être mal interprétée. Ou on ne peut pas faire confiance non plus à 100%. Il y a cette peur un peu... une petite paranoïa culturelle de se confier à des gens étrangers. Et donc, je pense que ça n'aide pas non plus. Tout ça ensemble n'aide pas à ce qu'on ait... Et c'est complexe. Pourquoi est-ce que même ceux qui ont des problèmes de santé mentale, même ceux qui ont un désir d'avoir de l'aide, souvent, c'est difficile d'accéder aux soins.
Oui.
C'est difficile d'accéder aux soins pour tout le monde, mais encore plus quand on fait partie d'un groupe minoritaire et qu'on ressent que il y a un peu une relation avec nos institutions qui n'est pas égale ou qui n'est pas confortable. Et donc, encore plus d'ouvrir son intimité à quelqu'un d'autre qui fait partie de cette institution-là, qui ne nous représente pas tant ou qui nous a fait du mal dans le passé, ça rend ça encore plus difficile à aller chercher cette aide-là, malheureusement.
Oui.
Donc, il y a plusieurs niveaux qu'on peut travailler dessus, que ce soit au niveau individuel, au niveau institutionnel.
Tu recommandes, toi, de regarder, enfin, d'aller voir... parce que pour aller voir un médecin, par exemple, on ne se pose pas la question d'aller voir un médecin musulman. Mais est-ce que tu recommandes, toi, pour tout ce qui est psychologie ou psychiatrie, d'essayer d'abord de voir aux autonomes s'il y a des musulmans? Ça peut être utile?
Ça peut être utile, mais c'est difficile. Hein? Donc, aussi au Canada, on essaie de créer un réseau pour que, justement, les gens se sentent plus à l'aise. Et pour certains, c'est plus facile d'aller voir quelqu'un qu'on pense va comprendre d'où on vient et notre culture. Pour d'autres, ils ne veulent pas ça. Pour d'autres, ils ne veulent pas quelqu'un, c'est trop proche. On a peur. Il y a certains qui vont avoir plus peur de la confidentialité s'ils pensent que cette personne fait partie de leur communauté. Surtout, plus les communautés ethnoculturelles sont petites dans un environnement. Donc, il y a peut-être cette peur-là. Il y a aussi cette peur peut-être que l'autre personne va aussi penser que leur foi est basse. Donc, je ne pense pas que c'est une réponse pour tout le monde d'aller voir un thérapeute musulman. Mais si pour la personne, ça aide à augmenter la confiance, alors il n'y a pas de problème, sauf qu'aussi, il faut en trouver. Et ça, c'est difficile, même si on essaie de créer un réseau. Je pense qu'au Canada, on a la chance de pouvoir un peu plus, que c'est un peu plus ouvert, par exemple, dans l'ordre des psychologues, comme l'ordre ou le collège qui rejoint tous les psychologues, on peut écrire les langues qu'on parle. Donc, dans le moteur de recherche, si tu mets une langue particulière, tu vas trouver les gens de cette langue-là. Et là, tu peux regarder à travers les noms et voir qui sonne de la même... qui sonne plus musulman, mais même là, c'est pas certain. Puis, au niveau de la Muslim Medical Association of Canada, l'Association canadienne musulmane, on essaye de créer un peu cette banque de ressources de qui est musulman et qui peut aider. Mais dans des pays comme par exemple en France, c'est beaucoup plus difficile parce que tu peux pas mettre cette identité-là de l'avant. Tu peux pas dire par exemple que tu es quelqu'un qui se spécialise en psychologie avec l'intégration islamique dedans, l'intégration des concepts islamiques dedans. Tu vois, ça serait super. Je pense que tu aurais une mauvaise attention de l'ordre là-dessus. Fait que je pense que dans certains pays, c'est encore plus difficile de networker que dans d'autres. Mais un des facteurs le plus prédictif qu'une thérapie va fonctionner, c'est comment on se sent avec le thérapeute. Si on se sent à l'aise. C'est vraiment quand on regarde la recherche de est-ce que cette sorte de thérapie fonctionne mieux que celle-là ou celle-là ou celle-là. Le plus important, c'est la relation thérapeutique avec le thérapeute. Donc, de chercher, de pas avoir cette gêne-là, de chercher jusqu'à trouver quelqu'un avec qui on se sent à l'aise. Peu importe de quoi cette personne aura l'air ou qui cette personne sera. Parce que c'est sur cette relation de confiance qu'on pourra à ce moment-là s'ouvrir et trouver de l'aide. Il faut savoir aussi que beaucoup de psychologues, même s'ils ne sont pas musulmans, sont formés à être dans ce qu'on appelait la compétence culturelle ou bien l'humilité culturelle et d'essayer de vraiment d'être plus conscient des biais et d'être plus humble dans son approche pour comprendre l'autre d'où il vient et d'où viennent ses difficultés. Et donc, ces psychologues-là ou ces gens-là qui ont une formation supplémentaire ou qui sont plus sensibilisés sur ces difficultés-là ont la capacité de naviguer aussi et la complexité des différences.
D'accord. Une personne qui vient voir un thérapeute, qu'est-ce qu'elle peut attendre de cette thérapie? Parce qu'il y a aussi, j'ai l'impression parfois, cette idée que qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire? C'est pas en parlant ou c'est pas en me donnant un petit médicament que ça va régler mes soucis.
Les thérapies peuvent donner des outils pour comment plus tolérer la détresse, des outils pour comment réagir, comment mettre des limites, par exemple, si c'est un problème de limite, ou apprendre à comprendre plus d'où viennent ces difficultés pour pouvoir à ce moment-là changer ou accepter ou agir d'une façon différente. Parce que si on ne réalise pas notre contribution dans nos difficultés et qu'on est juste en train de refaire la même chose, même chose, même chose, puis ça ne fonctionne jamais, mais il faut commencer quelque part et souvent on a besoin de regard extérieur. Et quand tu m'as dit ça, qu'est-ce que ça veut dire d'en parler? En parler va rien changer. En parler avec des gens qui ne sont pas formés ne va rien changer. Puis souvent, on a peur de cette idée de est-ce que ça va être du backbiting? Tu vas m'aider encore dans l'anglicisme. Si je parle de mes problèmes, c'est comme du backbiting. C'est
Médisance
comme
ou
de la médisance, exactement. Mais ce n'est pas pareil quand tu en parles pour obtenir de l'aide, pas juste pour en parler. Et tu en parles avec quelqu'un qui ne connaît pas les parties prises, déjà là. Et tu en parles dans une vision de changer les choses et que ça aille mieux. Donc, c'est très différent que juste en parler
Pour se faire plaisir.
pour se faire plaisir, pour se sentir mieux ou pour juste se défouler. C'est pas ça le but. Et c'est du travail. C'est pas facile, la thérapie. C'est pas facile parce qu'on réalise des choses sur soi, on réalise des choses sur. Il faut changer certaines choses, certains trucs qu'on fait qui ne sont pas aidants. Et donc, tout processus de changement n'est pas facile.
D'accord. J'ai l'impression, hein, en regardant un peu autour de moi, que c'est beaucoup plus facile pour les femmes d'aller voir des psys ou des thérapeutes que pour les hommes. Est-ce que c'est quelque chose que toi tu peux remarquer aussi et est-ce qu'il y a des raisons derrière, tu penses?
Oui, c'est souvent parce que ça commence par un peu ce qui est commun à toutes nos sociétés, un peu plus patriarcale et la masculinité toxique où les émotions sont moins acceptées chez l'homme. Les femmes, on a été un peu plus en grandissant, un peu plus pris conscience dans nos émotions, de pouvoir parler de nos émotions, de pouvoir les exprimer, alors que majoritairement chez les hommes, c'est quelque chose d'encore plus difficile. Donc, si on n'est pas capable de reconnaître que nos émotions existent et que nos réactions ou notre façon d'agir avec sont problématiques, ben, c'est déjà difficile d'aller en parler. Et peut-être que c'est vu comme plus un signe de faiblesse chez les hommes, mais c'est vrai que les femmes vont d'elles-mêmes plus aller chercher de l'aide des fois que les hommes. Puis, subhanallah, même le prophète, hein, il en a parlé dans un hadith, subhanallah, quand il a perdu son fils Ibrahim. Et sallallahu alayhi wa sallam, il pleurait il pleurait après l'avoir enterré. Et un homme est venu et lui a dit, comment ça tu pleures? Et il lui a dit, je suis un humain et je pleure sur la perte de mon enfant. Comment ne pas pleurer sur la perte de son enfant? Et donc, je veux dire, cette expression d'émotion, déjà à l'époque, le prophète sallam en a parlé, qu'exprimer ses émotions pour un homme, c'est difficile, mais ça ne devrait pas. On est humain et on a des émotions et il faut les exprimer ou les reconnaître, comme début.
D'accord. Et si, par exemple, on peut réaliser que dans notre entourage, je sais pas, ou chez nos amis, qu'une personne est censée aller, enfin, on pense que ça lui ferait du bien d'aller voir un thérapeute, mais que cette personne peut avoir ses stigmas, pour peu importe la raison, peut-être parce que ça peut être un homme, ou parce qu'il y a un sentiment de faiblesse si on va voir un thérapeute, ou peut-être avoir d'autres raisons. Comment est-ce qu'on peut faire pour essayer de l'accompagner, essayer de le convaincre que c'est une bonne chose pour lui sans que ça soit trop intrusif ou trop, voilà, pas trop le blesser?
Oui, mais je pense qu'il faut attendre que l'autre personne vienne à nous, il nous parle des difficultés et à ce moment-là, de pouvoir le diriger ou gentiment de dire, écoute, ça c'est un peu hors de mon expertise. Et peut-être, si tu veux, je peux aller avec toi, en parler à ton médecin, peut-être qu'il aura des idées. D'être là, de dire, je vais t'accompagner si tu veux aller chercher cette aide-là. Puis de vraiment, tu sais, chacun a son rythme quand il va décider que les choses sont difficiles pour soi, puis c'est pas nous qu'on peut les changer. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment difficile, par exemple, pour quand on voit des gens qu'on aime qui souffrent de problèmes avec les substances, par exemple. On peut voir comment est notre qu'est-ce que nous on fait qui est peut-être pas aidant, et on peut voir c'est quoi notre part des choses, mais on peut pas vouloir plus que l'autre personne le changement et le pousser non plus. Fait que c'est toujours une balance qui est quand même difficile. Il y a des organismes qui existent qui aident les gens à aider les gens qu'ils aiment et à ce qu'ils ne se brûlent pas en essayant de faire ça. Parce que c'est un chemin de longue haleine et des fois, la personne par elle-même doit réaliser qu'il y a un problème et qu'elle a besoin d'une aide plus que ce qu'elle a essayé. Mais je pense que si on est capable déjà de trouver de voir c'est quoi, qu'est-ce qui bloque, c'est quoi la crainte d'aller chercher de l'aide et qu'on est capable de répondre ou de diminuer cette crainte-là, ça peut être aidant. Ouais. Puis, quand je parlais des ressources un peu plus tôt, tu vois, comme... Il y a de plus en plus de séries sur la santé mentale en islam et des trucs qui sont déstigmatisants, que ce soit la Canadian Muslim Mental Health Conference, il y en a une par International Muslim Psychology Association, il y en a une aux États-Unis aussi, des conférences là-dessus. Il y a Queen Institute, c'est souvent en anglais malheureusement, j'en connais pas beaucoup en français, mais pour nos auditeurs anglophones, Yakin Institute a fait une série sur la santé mentale en islam par Dr. Awad. Dr. Awad, justement, qui a fondé un laboratoire de recherche sur la santé mentale, Muslim Mental Health, et qui traduit des manuscrits de l'époque, du 12e siècle, du 13e siècle, sur qu'est-ce qui se faisait à l'époque. Puis juste ça, ça a un pouvoir tellement déstigmatisant et tout ça. Et donc, je pense que c'est de prendre connaissance un peu et de changer, de commencer à dresser les barrières internes qu'il y a à aller chercher de l'aide. Puis après ça, de chercher, et même si notre premier contact n'est pas positif, de pas généraliser et de réussir de trouver quelqu'un qui peut nous aider. Parce que pour notre santé physique, si on va chez quelqu'un, on sent qu'il y a un problème, et on va chez quelqu'un et il ne nous aide pas, on ne va pas se dire « bon, c'est ça ». On va continuer à essayer de trouver une solution, on va vouloir une autre opinion, on va vouloir une autre référence, tu vois ce que je veux dire? Donc ça c'est pour notre corps, alors qu'est-ce qui est pour notre esprit, qui est aussi une amana, parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de prendre soin de notre esprit pour pouvoir être la meilleure version de nous-mêmes.
En parlant de ça, justement, de prendre soin de son esprit, avec la pression qui peut toucher les musulmans, qui est différente des non-musulmans, qu'est-ce que ça a comme impact mental sur les musulmans? Qu'est-ce que tu as pu voir? Quels sont les événements qui ont un impact? La pression contre les musulmans, le Covid, d'autres choses, je ne sais pas. Est-ce que tu vois que ces problèmes-là impactent particulièrement les musulmans.
Ouais, je pense que généralement, la discrimination ou que ce soit les musulmans ou par exemple les jeunes noirs ou tout ça, ou par exemple ici au Canada, nos frères des Premières Nations, ça a un gros impact sur la santé mentale. Puis on le voit par exemple, nos Premières Nations qui ont vécu des traumas intergénérationnels, du racisme systémique qui les atteint encore, qui les ségrègue de la population générale, et ça a un impact sur tout, sur leur espérance de vie, sur leur santé mentale, sur l'abus de substances, et tu peux le voir vraiment dans le contexte historique. Mais je pense quand c'est des difficultés, quand on vit de la discrimination et qu'on se sent marginalisé et qu'on n'est pas capable de se sentir comme faisant partie à part entière de la société, ça a des impacts à long terme. Surtout quand on a déjà d'autres vulnérabilités aussi. Puis, je pense dans beaucoup de places, que ce soit l'islamophobie ou le sentiment anti-musulman ou anti-migrant qui existe, a beaucoup d'impact, surtout si on le vit beaucoup plus du jour le jour et qu'on ne se sent pas supporté, que ce soit par des alliés de la majorité ou par notre propre famille ou notre propre réseau de support. Et qu'on se sent de plus en plus isolé, ben, ça peut avoir des impacts au long cours, puis la recherche soutient ça.
Oui.
Et donc déjà, des petites étapes de prévention, ce serait je pense, peu importe où on navigue, c'est d'avoir du mentorat, d'avoir un cercle d'amis forts, qui ont des expériences, par exemple, similaires, qu'on peut se soutenir à travers, que ce soit une carrière professionnelle ou que ce soit à travers... par exemple, fonder une famille ou tout ça dans une société où on se sent un peu plus on se sent plus minoritaire ou plus marginalisé. D'être conscient puis de faire les bonnes choses qui nous font du bien à nous, surtout quand on sent qu'on est en train de se brûler puis qu'on n'a plus envie de participer à la société, ben c'est important d'être à l'écoute de ces sentiments-là puis d'agir.
Oui.
Puis la COVID n'a pas aidé personne. La COVID, on parle d'une deuxième vague de santé mentale, puis on le sent dans notre système de santé, à quel point les gens sont beaucoup plus en détresse. Parce que justement, ça te montre à quel point on est des êtres humains sociaux. Et le stress et l'isolement et l'incertitude peuvent avoir vraiment un impact difficile sur les gens. Sur certains, par contre, ça peut aussi augmenter... la foi et le développement personnel, individuel et spirituel, par exemple. Pour certains, passer Ramadan tout seul a eu un impact positif de rapprochement aux sources et de faire plus de ibadat ou de pratiques en solitaire qui font du sens. Et pour d'autres, ça a eu l'effet contraire. Donc vraiment, ça dépend de chaque personne, les situations de stress, comment ils réagissent et comment ils le vivent.
Oui. Une autre question que je voulais te poser, c'est que, bon, on a une religion, on sait que, bon, on part du principe que voilà, la vie, c'est une épreuve et qu'on essaye, que notre objectif, c'est de réussir ces épreuves pour atteindre le paradis. Comment est-ce qu'on peut faire la part des choses entre les, quelque chose qui est juste une épreuve qu'on est censé réussir ou quelque chose où on peut transformer en fait une situation en une condition? On se dit que voilà, on est comme ça, on est par exemple, certaines personnes vont dire, je sais pas, de plus en plus de personnes qui vont être hypersensibles, qui vont se définir comme hypersensibles ou comme tel ou tel type de choses. Comment est-ce qu'on fait la part des choses entre ce qui est une épreuve qu'on est censé réussir et les épreuves psychologiques et les problèmes psychologiques qu'on peut avoir?
C'est une très bonne question.
C'est pas très bien exprimé, je pense.
Mais... Non, mais je la comprends parce que c'est comme les gens qui me demandent c'est quoi la différence entre la tristesse et la dépression, par exemple. Parce que la tristesse, c'est une expérience normale de l'être humain. Comment on sait que c'est devenu trop? Ou l'anxiété. L'anxiété, c'est nécessaire dans la vie. Ça nous permet d'être motivés. C'est ça qui nous a permis de survivre. C'est cette anxiété-là de se dire, il faut que je fasse quelque chose. Par exemple, avant un examen, l'anxiété d'examen nous pousse à étudier et à ne pas dormir. Et c'est bénéfique pour à la fin réussir. Ouais. Mais quand est-ce qu'on sait que c'est devenu trop et qu'en fait, c'est en train de bloquer notre avancement plutôt que nous aider et que là, on a besoin d'aide? C'est quand ça commence à impacter toutes les sphères de notre vie. Quand ça commence à impacter notre capacité de travailler, notre capacité de former des relations avec les autres, que les gens qui sont les plus proches de nous s'inquiètent pour nous, qu'on n'est plus capable de faire les choses qu'on était capable de faire à la maison et que ça commence à durer trop longtemps. puis qu'on n'est pas capable de vraiment reprendre le contrôle sur notre vie, puis qu'on sent qu'on est en train de changer et que ça s'empire et s'empire, ça s'empire. Et chacun se connaît et sait quand est-ce que ça devient trop. Puis aussi, je pense qu'il faut être humble et réaliser que les gens qui nous entourent et qui nous aiment nous voient aller. Et des fois, si nous, on ne voit pas qu'on est en train de s'empirer, eux, ils le voient parce qu'ils ont ce regard externe et il faut les écouter quand ils disent que là, c'est trop. Mais c'est sûr qu'en psychiatrie ou en psychologie, en psychiatrie, par exemple, quand on donne des médicaments, le but, ce n'est pas de traiter la souffrance qui fait partie d'être humain. C'est les grosses pertes, les grosses difficultés. Mais c'est quand est-ce que ça devient une condition, c'est ça qu'un psychiatre est capable de voir. Et c'est toujours en discussion avec l'autre personne quand est-ce qu'elle pense que là, elle a besoin de quelque chose de plus.
Oui.
Qu'elle est plus capable justement de fonctionner ou de faire les choses qu'elle est capable de faire. Et le plus qu'il y a de pertes, c'est si on n'est plus capable de travailler, on arrête de travailler, on est à la maison, on a trop de conflits avec les autres arrêtent de nous parler, on est de plus en plus isolés. C'est comme si on est en train de cimenter tous les ingrédients pour rester dans ces difficultés-là.
Oui. Et de la même manière, comment est-ce qu'on sait si c'est notre foi qui est atteint ou si c'est vraiment, ou si c'est quelque chose d'extérieur, vraiment quelque chose, une épreuve psychologique, une épreuve... où on a besoin d'aide vraiment et qui n'est pas lié à la foi.
Mais il n'y a pas de problème d'aller faire les deux en même temps. Ça veut dire qu'il n'y a aucun problème à aller voir un imam, un cheikh. Maintenant, on a aussi des chaplains. Je sais, des chaplains, c'est des gens qui sont formés dans les deux, dans un peu la santé mentale, comment aider les gens à naviguer les difficultés de la vie et qui sont formés religieusement. Puis souvent, il y en a associés aux hôpitaux, il y en a associés aux prisons, il y en a associés aux universités, par exemple, ici au Canada. Ou des imams qui ont comme une plus grande sensibilité là-dessus, mais même en général, les imams de plus en plus essaient d'avoir une formation et il y a des initiatives pour les sensibiliser plus aux épreuves de santé mentale, mais il n'y a aucun problème à voir les deux en même temps.
Ouais.
À aller voir un psychologue et à aller voir un imam, à travailler sur sa foi et à travailler sur, par exemple, à faire plus d'exercice, à dormir mieux, à instaurer une... Tu vois ce que je veux dire? Et en même temps, à changer les mauvaises habitudes qu'on a ou à adresser les difficultés qu'on a, à prendre des médicaments s'il le faut. Tu vois, aucune aide qu'on prend n'exclut une autre. On n'est pas obligé d'être une étape à la fois. On peut faire beaucoup de choses en même temps. Il faut juste vouloir que ça aille mieux et essayer de chercher toutes les solutions et toutes les réponses. Et donc, quand je te parle en psychiatrie, on essaie d'être holistique. C'est que d'être complet, c'est qu'on essaie de voir une personne, on essaie de voir ses difficultés d'aujourd'hui d'un point de vue qu'on appelle biopsychosocial, et moi j'ajoute souvent le spirituel. Donc bio, c'est biologique, psycho, c'est les facteurs psychologiques, social, c'est les facteurs sociaux, et spirituel, c'est les facteurs spirituels. Et on essaie de comprendre qu'est-ce qui a pu provoquer, perpétuer, qu'est-ce qui peut protéger tout, de ces difficultés qu'ils ont aujourd'hui, et on essaie d'adresser les quatre en même temps.
Oui.
Ou séquentiellement, dépendamment, qu'est-ce qui est plus acceptable pour la personne. Si pour la personne, ce n'est pas acceptable les médicaments, mais on peut commencer avec la thérapie. Puis après, si la personne réalise que, bon, malgré la thérapie, il y a des choses qui ne s'améliorent pas, on veut essayer la médication, on peut. Mais rien n'est un contrat à vie. Rien est, veut dire qu'on est. Rien nous limite en tant qu'être humain à faire d'autres choix ou à changer d'avis.
Oui.
Des fois, on a cette arrogance de vouloir juste faire une chose et à la fin, c'est pour notre désavantage plutôt que pour notre avantage.
Ouais. Quels sont les éléments qui sont préventifs pour ne pas avoir besoin d'en arriver là? Comment est-ce qu'on peut faire pour se protéger, pour dans notre cercle ou je sais pas, dans notre environnement, faire en sorte qu'on soit bien sans devoir arriver à l'étape où on doit aller voir un docteur ou une thérapeute?
Et tu vois, c'est difficile à dire parce qu'en même temps, quand je te parle en psychiatrie, on ne traite pas juste la dépression et l'anxiété, on traite la schizophrénie, la bipolarité, les psychoses, les gens qui sont sur le spectre de l'autisme, le trouble d'attention. Il y a des choses qu'on est avec aussi, le trouble de l'attention ou l'autisme, c'est neurodéveloppemental. Notre cerveau est fait d'une certaine façon qui nous rend... qu'on voit la vie différemment ou qu'on a des challenges, des défis différents parce que le monde n'est pas conçu pour les gens qui sont neurodivergents, par exemple. Et donc, quand tu es neurodivergent, que tu sois trouble de l'attention ou autiste, tu as déjà plus de risques de développer d'autres problèmes de santé mentale, que ce soit de la génétique des choses ou de ce que ce soit, parce que comment le monde est conçu, c'est beaucoup plus difficile pour toi de naviguer ce
Ouais.
monde et d'accumuler des succès qui vont te faire sentir une bonne estime de toi et qui vont te faire sentir bien et que tu peux naviguer. Donc, des fois aussi, quand on parle de psychiatrie, on limite souvent ça à la dépression et l'anxiété, mais ce n'est pas juste
Ouais.
ça. Donc, je peux te parler qu'est-ce qui peut prévenir en général l'anxiété et la dépression, mais il y a beaucoup d'autres désordres ou
Ouais.
d'autres de maladies, certaines qui sont chroniques. Et à part pouvoir les reconnaître et aller demander de l'aide, c'est pas vraiment, même la dépression, l'anxiété, il y en a que c'est pas vraiment ta faute ou quelque chose que tu as fait de mauvais ou des habitudes qui ont été négatives. Mais bien sûr, en général, les bonnes habitudes de vie sont bénéfiques pour tous, que ce soit l'exercice, que ce soit bien se nourrir, être entouré de gens, travailler dans un milieu qui nous fait sentir qu'on contribue quelque chose, travailler sur notre estime de soi, tout ça peut aider en général, mais encore là, ça dépend.
C'est dans les
Ça
cas.
dépend. Ça dépend des cas, mais c'est comme le diabète. On ne peut pas dire à quelqu'un qui a le diabète, c'est parce qu'il a toujours mal mangé dans sa vie. Il y a beaucoup plus de facteurs. C'est multifactoriel, les raisons pourquoi quelqu'un développe. On ne peut pas dire une chose. Ce n'est pas
Ouais.
juste génétique, ce n'est pas juste environnemental, ce n'est pas juste la personnalité, ce n'est pas juste le trauma. Il y a beaucoup, beaucoup, ce n'est pas juste la foi ou le manque de foi. Il y a beaucoup, beaucoup d'ingrédients qui amènent à cet état-là. Donc, une fois qu'on est rendu là, c'est de se dire, bon, OK, mais qu'est-ce que là, je peux faire pour changer les choses ou pour pouvoir vivre avec sans que ça mange toute ma qualité de vie ou que ça m'empêche de vivre bien.
Ouais. Tu disais qu'au début de l'interview que la psychiatrie, tu as trouvé tout de suite que c'était intéressant pour toi, dès que tu as découvert le domaine. Pour qui est-ce que ça peut être, tu recommandes de ne pas t'orienter vers la psychologie ou la psychiatrie? Est-ce que certains types de personnalités, par exemple, travaillent dans ce domaine-là? C'est pas forcément une bonne chose ou c'est vraiment ouvert à tous?
Je pense qu'il faut avoir la curiosité et il faut avoir la capacité de mettre des limites, que ce soit des limites pour pouvoir se protéger soi-même ou des limites avec les autres. Parce que je pense qu'en général, il y a beaucoup de gens qui vont aller vers la santé mentale parce qu'eux-mêmes, ils ont des difficultés, donc ils rentrent dedans pour essayer de se comprendre mieux. Et puis, des fois, s'ils ne règlent pas, qu'est-ce que là-dedans viens me chercher, viens chercher mon expérience, mais ils risquent que ça joue dans leur relation
Oui.
parce qu'ils n'ont jamais résolu leurs propres difficultés qui les ont amenés à prendre ce choix de carrière. Donc, c'est juste de réaliser d'où ça vient. Est-ce que c'est parce qu'on essaye de se auto-traiter qu'on suit ce cheminement? Ce qui, c'est pas négatif. On peut suivre ce cheminement et réaliser plus de choses sur soi-même et après utiliser ça comme une force pour aider les autres. Il n'y a aucun problème là-dedans. Comme le fait, par exemple, d'avoir vécu une difficulté au niveau de la santé fait en sorte qu'on veut devenir médecin parce qu'on a interagi avec des médecins qui nous ont aidés, qu'on a admirés, qu'on a voulu émuler plus tard. Il n'y a pas de problème avec ça. C'est juste de réaliser, de vraiment être ouvert à qu'est-ce qui se passe en interne qui nous amène pour pouvoir faire ce travail. Puis au niveau de la sensibilité, je veux dire, ça aussi, on me demande souvent comment tu fais pour pas que ça t'impacte, pour pas que tu ramènes ça à la maison, que tout ça, tout ça. Mais je viens, quand on est psychiatre ou psychologue, on vient pas d'une, on n'est pas impuissant. Je veux dire, on comprend qu'est-ce qui se passe. Souvent, quand on est nous-mêmes, on vit la difficulté ou on vit la difficulté dans les gens qu'on aime, c'est très différent. Un, c'est proche de nous, ça nous impacte, on aime la personne, on se sent impuissant parce que c'est pas comme si cette personne, on est en relation d'aide avec, c'est quelqu'un qu'on aime. C'est quelqu'un qui va peut-être prendre nos conseils, peut-être qu'il va pas le prendre. Alors que quand on est dans un domaine professionnel, la personne qui est devant nous est en demande d'aide ou en ouverture ou en questionnement ou en ambivalence. En tout cas, il y a quelque chose qui l'a amené à venir à ce rendez-vous-là et donc on a quelque chose qu'on peut offrir ou qu'on peut commencer à travailler avec la personne. Donc on n'est pas dans une On se sent pas impuissant face à toutes ces difficultés qu'on voit. Et au contraire, moi, je trouve que ça m'a rendue tellement plus en admiration avec la force que l'être humain a pour surmonter des choses que tu penserais insurmontables. Je vois des patients qui viennent avec des histoires de vie horribles et je me dis, ah, waouh, elle a réussi à naviguer tout ça, à former une relation, à se marier, à avoir un enfant. Et là, c'est maintenant qu'elle a sa bloque. Elle a quand même réussi à faire tout ça. Tu vois? La force de l'être humain, quand même. La résilience que l'être humain a. C'est vraiment incroyable.
C'est pas des choses qui te travaillent quand tu rentres chez toi et peut-être tu discutes avec ton mari, je sais pas, et qui impactent un peu ton environnement un peu intime.
Non, ça m'impacte. Ben, je veux dire, ceux qui ça m'impacte, c'est peut-être parce qu'ils ont amené quelque chose qui était proche de moi. Et donc, je vais parler de qu'est-ce qui est proche de moi, mais je ne parle pas de mes cas à la maison ou avec mon mari ou tout ça. Je pense que ce qui est aidant, c'est d'avoir aussi des collègues ou des mentors qui sont plus avancés dans leur cheminement, qui peuvent nous aider à naviguer des fois des situations plus difficiles. Puis souvent, quand on est résident, on a des superviseurs avec nous. On n'est pas tout seul. Fait que souvent, ça nous permet de pouvoir parler de ça. Qu'est-ce qui a été difficile? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment, par exemple, quand quelque chose ne se passe pas bien ou le débrief, tout ça. Et donc, on n'est pas vraiment seul. Peut-être que si tu me parles dans quelques années, quand je vais être toute seule, quand je vais être patronne moi-même et je n'aurai pas de superviseur, à ce moment-là, ça va être les collègues et les mentors. Mais pour l'instant, je n'ai pas l'impression que les choses me tracassent.
Bon.
Les choses qui sont plus difficiles, c'est les choses qui ont plus rapport avec je veux dire, l'identité ou tout ça. Là, quand ça vient me rejoindre, par exemple, les microagressions ou des choses qui ont plus attrait à mon identité, à moi, que là, oui, je vais aller en parler avec ma famille et mes amis pour essayer d'obtenir du support ou sortir ça pour pas que ça m'impacte.
Oui.
Mais en général, le cas des patients, c'est ça reste avec eux. Je ne les aide pas si je ressens de la sympathie plutôt que de l'empathie.
Ouais.
Si mon patient pleure et je pleure avec, je peux ressentir sa douleur, je peux lui refléter que c'est difficile. Même des fois, pleurer avec un patient, ça peut être positif de réaliser que l'autre personne ressent aussi. Mais après, je suis dans une relation, qu'est-ce que je peux faire pour aider?
Oui, bien sûr. OK, bon, c'est rassurant. écoute, Salam, j'ai fait un peu le tour des grosses questions que je voulais te poser. J'ai encore quelques petites questions pour terminer, mais avant ça, est-ce que tu penses qu'il y a un sujet ou un domaine qu'on aurait pu évoquer, qu'on n'a pas évoqué?
Ben, je pense justement l'identité. Je pense qu'il ne faut pas avoir nous-mêmes nous mettre des limites. Moi, je suis visiblement musulmane, je suis voilée, je navigue des patients, je navigue des superviseurs, je navigue des systèmes de santé. Je suis au Québec, on a des lois chaque quelques années qui sortent qui sont très polarisantes, des débats de société sur l'identité, sur le voile, sur les symboles religieux. Puis je pense qu'il ne faut pas laisser ces choses-là. Si on sent qu'on est capable de faire quelque chose ou de suivre une certaine profession, il ne faut pas laisser ces choses-là nous décourager d'aller poursuivre. Puis laisser les interactions négatives qu'on peut vivre au jour le jour impacter notre vision générale. Et nous faire oublier les choses positives qui arrivent au jour le jour aussi. Donc, des fois, avoir un petit journal de gratitude, un petit journal... Si on sent, par exemple, qu'on n'est pas accepté, qu'on vit beaucoup de microagressions, qu'on est... Des choses qui nous impactent, des fois, avoir un petit journal de gratitude où on écrit les interactions positives qu'on a eues peuvent nous aider à un peu changer cette vision qu'on a puis continuer à donner le meilleur de nous-mêmes parce qu'on nous a jamais, Allah subhanahu wa ta'ala nous a jamais demandé de garantir qu'on est aimé par tous. Nous, ce qu'on veut, c'est plaire à notre créateur et après, lui, il peut changer les cœurs des gens comme il veut. Donc, de ne pas laisser ça arrêter personne, d'aller chercher la carrière qu'ils veulent ou d'aller chercher la place qu'ils veulent dans cette société pour pouvoir avoir leur plein potentiel.
Très bien. Écoute, c'est très bien, j'aime beaucoup ton conseil. Donc, pour terminer, Salam, est-ce que tu as des routines que tu suis régulièrement, tous les jours, qui toi t'aident à progresser ou qui t'aident à avoir l'énergie pour continuer?
Les routines qui m'aident à... Mais je veux dire, qu'est-ce qui m'a toujours aidée à continuer? C'est que je n'ai jamais laissé ma carrière m'arrêter de vivre ma vie. Ça veut dire que quand j'ai voulu me marier, je me suis mariée. Quand j'ai voulu avoir des enfants, j'ai eu des enfants. Et je ne me suis jamais dit, il y a une étape qui vient avant l'autre. Parce que j'ai l'impression que quand je suis bien entourée, que je me sens bien, ben, je performe mieux. Mmh. Et donc, et quand j'ai besoin, et je trouve, il y a t'es des fois dans notre société, on pense que, par exemple, se marier, avoir des enfants, pour une femme, ça va nous freiner. Alors que moi, j'ai l'impression que quand on est bien supporté, bien entouré, ça nous donne une force qui nous aide à être encore mieux. Moi, je trouve rien de plus réénergisant que de jouer par terre avec mes enfants et d'imaginer des choses. À ce moment-là, j'ai un regain d'énergie pour aller après ça travailler et sentir que comme ma perspective a changé et que j'y prends pour faire ce que je fais. Donc, je pense que plus que vous donner les choses, les recommandations qu'on connaît tous là, un peu psychopop, de manger bien, exercice, tout ça, avoir une routine spirituelle, voir les gens qu'on aime. Moi, ça a vraiment été de un peu shifter cette vision de choses étape par étape et de faire les choses qui, comment ils fonctionnent pour nous et d'apprendre à nous connaître mieux avec nos forces et nos faiblesses et d'essayer de les adresser comme on peut.
OK. Salam, c'était un plaisir de discuter avec toi, d'échanger sur le sujet de la psychologie, la psychiatrie. Je pense qu'on a évoqué beaucoup de sujets que je n'avais pas eu l'occasion d'évoquer dans mes précédents podcasts. Parce que malheureusement, comme tu l'as évoqué plus tôt, c'est pas encore quelque chose qui est suffisamment développé, et encore moins en France. Ça l'est un peu plus au Canada et aux États-Unis. Mais bon, on sent qu'il commence à y avoir une awareness, une conscience, une prise de conscience dans la communauté. Ouais. Que, je suis sûr que dans les prochaines années, il y aura de plus en plus d'outils pour la communauté, pour ceux qui sont en besoin.
C'est sûr. Et aussi, il faut se donner une chance. Quand on est une communauté qui essaie de survivre, ce n'est pas encore le moment. On n'est pas rendu à l'étape où on peut voir comment on peut, pas juste survivre, mais vraiment vivre et accomplir et grandir. Et quand on est une communauté qui sont souvent en danger, des fois, on n'est pas encore à cette étape où on peut faire plus que le minimum pour se sentir correct à naviguer cette société. Donc, ça va venir. Et alhamdoulilah, il y a beaucoup de choses qui se produisent et il y a une effervescence là-dedans. Donc, ça fait plaisir à voir.
On est optimiste par rapport à ça. Écoute, Salam, je te souhaite le bon courage pour la suite. Que Dieu te mette la baraka, que Dieu te facilite dans la fin de tes études. Je crois qu'il te reste un an, il me semble, un an et demi.
Oui, mais je me surspécialise en pédopsychiatrie, donc je me suis rajouté une autre année parce que j'aime trop étudier.
Bah, écoute, bon courage pour la fin de tes études et puis bientôt ton cabinet, Inch'Allah.
Jazakallah khair. Merci à toi.
Je te dis à bientôt, Inch'Allah, pourquoi pas au Canada. Ou si tu passes à Singapour avec ton mari, pourquoi pas.
Inch'Allah, à bientôt.
À bientôt, salam alaikum.
Salam alaikum.
J'espère vraiment que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à le partager à 3 personnes de ton entourage et à faire des invocations pour qu'Allah bénisse cette initiative. À bientôt pour un nouvel épisode, Inch'Allah. Salam alaikum.